Vous écoutez
RMC.
Un tout nouveau journal, Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour à tous. Le poisson commence à manquer sur les étals ce matin. Les marins pêcheurs français qui sont en colère, ils mènent une opération filière morte. Deux personnes tuées après le passage de la tempête Matisse. Et puis de la Formule 1, puisque les qualifications pour le Grand Prix d'Australie demain vont commencer d'une minute à l'autre. On vous les fait vivre dans ce journal.
Et à 7h10, à vous de nous dire quel avenir pour la contestation de la réforme des retraites. Elisabeth Borne doit-elle lâcher du lest? Ça vous fait réagir? On vous attend au 32-16.
Qui est Arnaud Rousseau? Portrait du futur patron de la FNSEA, c'est avec Nicolas Poincaré tout à l'heure à 7h20.
La matinale week-end.
Pas de poisson en ce matin du 1er avril sur vos étals.
Ce n'est pas une blague ou un bon mot. Hein. Dans certaines poissonneries aujourd'hui, les poissons français vont se faire rares. La raison, une opération filière morte des pêcheurs tricolores. Ils protestent contre le prix du gazole, des réglementations nationales également, tout comme européennes, qu'ils jugent inadaptées. À 7 dans l'Hérault, ces mesures passent mal. Reportage signé Estelle Henry.
Dans la poissonnerie de Crise, quasiment aucun poisson français. Près de la moitié de ses bancs sont vides.
Ben nous, ça nous impacte avec la fermeture de Crise, donc forcément, beaucoup plus difficile de trouver de la marchandise. Je pense que je dois être à moins 30% sur aujourd'hui. Demain, ça risque d'être plus parce que j'aurai moins de marchandises.
Des états clairsemés qui surprennent les clients comme Michael, plutôt compréhensif.
Oui, j'ai lu ça aujourd'hui, ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ils ont sûrement leur raison de le faire. Ils ont des grosses pressions réglementaires et financières. Ils ont aussi le Brexit aussi qui joue pas mal. Voilà, ça s'accumule à beaucoup d'autres désaccords.
Un mouvement de colère lié à un sentiment d'abandon pour Bertrand Wessling, président de la plus grande société coopérative de pêcheurs de Méditerranée.
Les pêcheurs ont souffert déjà de la crise du Covid. Et puis ensuite, il y a eu le problème du coût de l'énergie. Et s'ajoute à ça un ensemble de contraintes réglementaires qui fait que maintenant, il n'y a plus d'avenir dans une partie des métiers de la pêche.
Le manque de poissons pourrait se poursuivre si les pêcheurs n'obtiennent pas la suspension du plan européen interdisant le chalutage dans les aires marines protégées.
Vous êtes pêcheur, mareyeur, poissonnier. On vous attend ce matin au 32-16. On en reparlera tout à l'heure avec l'un des leaders de la contestation, Olivier Leprêtre, président du comité des pêches des Hauts-de-France, notre invité à 7h40.
Et il est 7h02 sur RMC. On constate les dégâts après le passage de la tempête Matisse ce matin.
Avec des vents qui ont atteint par endroits les 130 km/h, deux personnes ont perdu la vie dans l'est du pays. Une mini-tornade a même frappé une commune de la Vienne. Manon y est habitante de Saint-Jean-de-Sauve.
J'ai donc vu, pour moi, une tornade. En fait, ça faisait comme un gros brouillard passer et des tôles de toit, tout ça, voler vraiment en l'air. Ça faisait vraiment peur. Et un gros bruit, mais vraiment un bruit sourd, quoi. J'ai des enfants, donc, chez moi, et je leur ai tout de suite dit, cachez-vous sous les tables. J'ai vraiment eu peur, quoi.
Et ce matin, l'alerte vent violent placée par Météo France sur tout le territoire a entièrement été levée.
En revanche, probable avis de gros temps la semaine prochaine. Les syndicats ont rendez-vous avec la Première ministre.
Rendez-vous à l'hôtel Matignon mercredi à 10h entre la chef de l'exécutif et l'intersyndicale. À l'ordre du jour, évidemment, la réforme des retraites. Et à ce rendez-vous de mercredi, Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, sera bien présente.
La CGT, ça a toujours été une organisation qui lutte et qui négocie, sauf que là, l'actualité du moment, c'est la lutte. C'est-à-dire que là, tant qu'il n'y a pas de retrait de cette réforme des retraites, il n'y aura pas de négociation. La seule chose dont on peut parler avec le gouvernement actuellement, c'est le retrait de la réforme des retraites. Tant qu'on ne traite pas ces questions, on ne peut pas traiter d'autres sujets.
Sophie Binet, nouvelle leader de la CGT, à noter également ce matin. Jean-Luc Mélenchon visé par une enquête pour outrage après ses propos contre la Brave M, cette brigade motorisée de la police nationale. Le chef de file de la France Insoumise qui avait affirmé qu'il fallait soigner ces policiers. Par ailleurs, un collectif d'avocats a déposé hier une centaine de plaintes pour arrestation arbitraire et entrave à la liberté de manifester. Autre entrave dénoncée par l'Italie, elle concerne l'application ChatGPT. Vous le savez, ce système d'intelligence artificielle qui permet de créer du texte tout seul, eh bien Rome l'a tout bonnement bloqué, estimant que ChatGPT ne respectait pas la législation sur les données personnelles. Alors est-ce que la France doit faire de même? Non, pour Jean-Gabriel Gianassia, professeur à la faculté des sciences de la Sorbonne.
Il n'est pas question aujourd'hui de bloquer ChatGPT parce qu'il faut apprendre à l'utiliser, il faut éduquer, il faut être prudent, mais ça ne veut pas dire qu'il faille l'interdire. Hein. C'est juste un logiciel qui est étonnant, surprenant. On a affaire à des machines qui, même si elles sont imprédictibles, peuvent être coupées. On n'est pas asservi à ces machines, elles ne vont pas prendre le pouvoir.
7h05 sur RMC, et on peut vous dire que les Français sont généreux. La preuve, grâce à certains des élèves d'une école d'une Val-de-Marne, ont pu partir en classe verte.
Élèves de l'école Saint-Exupéry à Villeneuve-Saint-Georges, les enseignants ont mis en place une cagnotte en ligne pour financer le projet de partir en classe verte, avec l'objectif de faire sortir les jeunes de leur quartier à Villeneuve-Saint.
L'idée est née en classe alors que Chloé Lubrano interroge ses élèves.
Je leur avais demandé qui avait déjà été en forêt. Il n'y en avait que 3 qui avaient levé la main sur 15.
Les enseignants décident alors d'organiser un voyage dans la forêt de Fontainebleau pour sortir de leur quotidien les enfants de cette école en zone d'éducation prioritaire.
On va faire du VTT, du yoga.
Olivier est en CM2.
De l'équitation, de la natation, du tir à l'arc.
Des activités qui enthousiasment Kadiatou, 8 ans, à un détail près.
Et j'ai un peu de stress parce que mes parents ils vont pas être là pour me surveiller. Aussi être seule, pour s'habiller seule, se doucher seule.
Pour les enseignants, cette séparation est nécessaire. Professeur de CE2 et CM1, Violaine Benamar espère que ce voyage permettra aux enfants de devenir plus indépendants.
On se rend compte que nos élèves en classe manquent d'autonomie, et c'est pas que l'autonomie au niveau du travail, c'est aussi l'autonomie en général, comment se gérer tout seul et avoir assez confiance en eux pour dire on peut le faire, on peut y arriver.
Pour augmenter la cagnotte, une brocante solidaire et une tombola vont être organisées prochainement, départ prévu fin mai.
Allez, bon voyage. Notre page sport, Stéphane, s'ouvre à Melbourne en direct de la Formule 1, les qualifications du Grand Prix d'Australie.
Elles vont débuter d'une minute à l'autre. Jean-Luc Roy, on vous retrouve, bonjour. La pluie qui pourrait venir jouer des troubles faites.
Et oui, effectivement, la partie Q1 de ces qualifications a démarré il y a 7 minutes maintenant, et justement une des Red Bull vient de quitter la piste. Alors apparemment cette piste est sèche, mais elle a percuté, elle a été délicate pendant la deuxième séance d'essai libre qui avait été dominée par Fernando Alonso. La troisième, c'était Max Verstappen, et effectivement il va falloir jouer avec l'adhérence de cette piste qui est extrêmement variable et qui n'est pas permanente dans l'Albert Park. Drapeau rouge maintenant, donc on va repartir dans quelques minutes pour cette séance d'essai.
Jean-Luc Roy pour RMC, on vous retrouve dans une demi-heure.
Le foot et l'OM qui laisse encore filer des points.
Match nul un partout hier face à Montpellier pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, Lens se déplace à Rennes, au programme aussi Auxerre-3 à 17h. Et puis foot toujours avec la première conférence de presse du nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, Hervé Renard. Il a dévoilé sa première liste pour les deux matchs amicaux d'avril. Ce sera face à la Colombie puis au Canada en préparation de la Coupe du Monde cet été. Anthony Reich.
Depuis son enfance, Hervé Renard a toujours eu un fort attachement au maillot tricolore, à la France du sport qui gagne et qui le fait vibrer.
Je me suis toujours dit dans un petit coin de la tête, un jour, pourquoi pas, j'aimerais bien participer à une grande compétition avec l'équipe de France féminine. Il n'y a rien qui remplace les grandes compétitions dans notre métier.
Sa deuxième motivation, Renard va la chercher dans son appétence pour les grandes compétitions internationales, aux émotions incomparables et cette volonté d'écrire l'histoire de l'équipe de France féminine avec l'enchaînement Coupe du Monde, Jeux Olympiques.
Il faut dans les deux compétition au minimum rejoindre le dernier carré. Et bien sûr, on m'a demandé très poliment si vous avez l'opportunité de gagner, surtout ne vous en privez pas. J'ai dit, merci, le message est bien reçu, mais je suis venu pour ça.
Au cours de ce premier rassemblement qui débute lundi, Renard va découvrir son nouveau groupe et le lancer vers un nouvel avenir avec le retour de Jeannie Le Sommer et Wendy Renard.
Hervé Renard, homme charismatique dont on reparlera, tiens d'ailleurs, tout à l'heure dans notre Story Sport à 8h20. 7h08, soyez les bienvenus sur RMC.
Restez bien avec nous dans un instant. On vous pose cette question. Elisabeth Borne doit-elle lâcher du lest sur les retraites? La première ministre reçoit l'intersyndicale toujours unie. Mercredi, veille de la 11e journée de mobilisation. C'est à vous de nous dire et c'est dans 2 minutes sur RMC.
RMC, la matinale week-end. RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Allez, bon réveil, soyez les bienvenus, on est samedi 1er avril, on vous accompagne bien sûr jusqu'à 9h avec toute l'équipe et vous au 32-16.
Ça sera le gros temps fort de la semaine prochaine, mercredi, rencontre entre la Première Ministre Elisabeth Borne et l'intersyndicale à la veille d'une 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un dialogue est-il encore possible? Il est l'heure de vous écouter sur le sujet.
RMC, à vous de nous dire.
Bonjour Margot Bourdin.
Bonjour Mathieu, bonjour Marguerite.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Notre question fatidique sur Twitter depuis hier et aujourd'hui au 32-16. Elisabeth Borne doit-elle lâcher du lest?
Et on vous pose la question parce qu'Elisabeth Borne reçoit mercredi prochain l'ensemble de l'intersyndicale à la veille d'une journée, nouvelle journée de mobilisation, la 11e depuis le début du mouvement. Alors il sera bien sûr question de la réforme des retraites, mais la Première Ministre prévient, la réforme ne sera pas mise sur pause. C'est pourtant ce que demande Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui a formulé en début de semaine la demande d'une médiation pour tenter de sortir de la crise. Demande soutenue par Philippe Martinez, mais la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, fraîchement élue et plus ferme, elle ira bien à Matignon mercredi, mais pour demander le retrait de la réforme.
La CGT, ça a toujours été une organisation qui lutte et qui négocie, et donc la CGT, elle va continuer à lutter et à négocier, sauf que là, l'actualité du moment, c'est la lutte, la lutte, la lutte. C'est-à-dire que là, tant qu'il n'y a pas de retrait de cette réforme des retraites, il n'y aura pas de négociation. Il faut retirer cette réforme des retraites.
Et les syndicats doivent se parler en début de semaine pour accorder leur violon.
Elisabeth Borne a également invité les chefs et des groupes parlementaires et des partis politiques.
Oui, et ce sont les députés Liotte qui ouvrent le bal ce lundi. Vous vous souvenez que l'un d'entre eux, Charles de Courson, était à l'origine de la motion de censure qui a failli faire tomber le gouvernement à 9 voix près. Mercredi, ce sera au tour des Républicains et le lendemain, le Rassemblement National. Du côté des socialistes et des écologistes, rien n'est tranché, mais la tentation du boycott de cette rencontre est grande. On doit savoir ce matin ce que choisit EELV. Enfin, les insoumis, et eux ont déjà répondu, c'est non. À la place, les communistes lancent le projet d'un cortège républicain. Il s'élancera mardi de l'Assemblée nationale pour rejoindre l'Élysée. Objectif, réunir 252 parlementaires et lancer un appel solennel à Emmanuel Macron pour demander un référendum d'initiative populaire.
Et les citoyens, les Français, qu'en pensent-ils? Ils veulent que la mobilisation se poursuive.
Oui, 63% d'entre eux appellent à ce que la mobilisation continue. Résultat d'un sondage Elab, 3 Français sur 4 pensent que le gouvernement doit retirer sa réforme pour mettre fin aux grèves et aux blocages. En clair, l'approbation de la mobilisation ne faiblit pas et cette mobilisation, eh bien, elle continue. Grève reconduite à la raffinerie de Donges pour la 5e semaine consécutive. La Direction Générale de l'Aviation Civile demande aux compagnies d'annuler des vols en début de semaine prochaine. 20% des vols seront annulés à l'aéroport de Marseille et de Bordeaux lundi, 20% à Orly, Marseille et Bordeaux le lendemain.
Et alors, à vous de nous dire, Elisabeth Borne doit elle lâcher du lest?
Eh bien, vous répondez oui à 73% ce matin à notre consultation RMC sur Twitter.
Merci d'avoir participé, merci de ces explications. Margot, vous votez sur le compte Twitter d'RMC et vous réagissez évidemment à l'antenne. Vous le savez, on aime débattre avec vous en direct. Vous composez le 32-16 et c'est Christine qui nous appelle depuis le Cher. Bonjour Christine.
Bonjour Marguerite, bonjour Mathieu.
Salut Christine.
Vous faites quoi dans la vie, Christine?
Alors moi, je suis retraitée, j'ai 68 ans.
D'accord.
Voilà, et j'étais travailleur social, voilà.
Est-ce qu'Elisabeth Borne doit lâcher du lest? Que pensez-vous, que répondez-vous à cette question précise, Christine?
Oui, elle doit absolument lâcher du lest, elle doit même retirer cette réforme. Vous voyez, parce que moi j'ai, comment dire, moi j'ai pas confiance en ce gouvernement depuis longtemps, hein. Vous savez, à partir du moment où c'est un gouvernement qui veut baisser l'APL, qui refuse des aides financières aux associations alimentaires.
L'APL, c'était avant Borne, hein, c'était sous Édouard Philippe.
Oui, c'était avant Borne, mais c'est quand même, qui c'est le patron, ce monsieur qui est au pouvoir, c'est Macron. Donc, moi, vous voyez, j'étais à la retraite à 62 ans. J'ai fini ma carrière en tant qu'assistante maternelle complètement cassée à 62 ans.
Mais vous ne seriez pas vu travailler plus longtemps?
Non, et je payais à 2,68 € de l'heure, vous voyez, net. Donc, et là, elle veut recevoir les syndicats. Non, mais ce sont des bouffons, excusez-moi du terme. Hein. Alors, je sais que j'espère que je n'aurai pas les gendarmes ce matin chez moi d'utiliser des mots pas d'oiseaux, mais voilà, j'ai traité
ce gouvernement. Christine, on n'en est pas là.
J'espère. Mais elle veut maintenant parler de la pénibilité, des conditions de travail, alors que depuis des mois et des mois, les syndicats essayent de lui en parler et que droit dans ses bottes, c'est à 64 ans. Moi, à 62 ans, j'étais cassée. Cette femme, ce gouvernement sont hors sol.
Il c'est faudrait qu'ils viennent. C'est de l'hypocrisie de les inviter à Matignon? C'est de l'hypocrisie de la part d'Elisabeth Borne?
Bien sûr, ben, vous avez entendu Laurent Berger, vous avez entendu la CGT. Oui, ils vont y aller, c'est très bien d'y aller. Il faut y aller. Mais par contre, il faut lui dire, on arrête cette réforme et on remet les choses à plat, on rediscute, parce que le plus important, c'est pas travailler jusqu'à 64 ans. Vous savez, je suis grand-mère. Le principal, c'est de s'occuper de ses petits-enfants, c'est d'être bénévole dans des associations, de se reposer, comme dit mon père.
Oui, il y a une vie après le travail.
Voilà, on laisse la place aux jeunes, en plus, comme ça, ils reprennent le travail, on leur lègue nos postes, et on s'occupe de nos vies personnelles, parce qu'on a assez travaillé, vous voyez. Et Alors c'est facile de travailler jusqu'à 64, 70 ans, quand on a toute une cour qui s'occupe de ses enfants, qu'on fait le ménage, qui fait le ménage, etc. chez soi, où on va en institut, voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire.
Oui, quand exactement. On a les moyens. C'est sûr que quand on a un métier pénible, c'est plus compliqué. Christine, est-ce que vous serez mobilisée jeudi prochain, 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, vous serez dans la rue?
Oui, je suis une retraitée, bon, moralement, parce que j'étais opérée du genou, mais je peux vous dire que, bon, je voyais, je suis une retraitée gauchiste, parce que je sais que c'est très mal vu de dire ça, de notre temps, et de tout cœur, je suis avec les manifestants, je suis pour le blocage, voilà, moi, je ne comprends pas, moi, j'ai pas envie que mes enfants et mes petits-enfants travaillent jusqu'à 67, 70 ans, surtout que mes filles sont dans l'enseignement, alors face à 35 élèves, j'aimerais savoir comment elles feront à 64, 67 ans. Voilà, comme le milieu hospitalier. Voilà.
Ça a le mérite d'être très clair, très tranché, très franc, ma chère Christine. Merci beaucoup d'avoir composé le 32-16. Vous poursuivez, bien sûr, le débat est sur la table, on vous attend. Et vos messages, bien sûr, sur l'appli RMC, l'onglet Direct Studio, et notre groupe Facebook Les Matins RMC. Salut Christine, et bon week-end.
Et bonne convalescence.
Il est 7h19.
À suivre dans la matinale week-end.
L'empereur des oléagineux, vous le connaissez, il sera bientôt à la tête de la FNSEA, il s'appelle Arnaud Rousseau, parce que c'est le seul candidat pour remplacer Christiane Lambert.
Un homme au parcours étonnant, ça sera dans le portrait de Poincaré, et c'est dans une minute sur RMC, à tout de suite.
RMC, la matinale week-end. RMC, la matinale week-end.
Il est 7h20 sur RMC, soyez les bienvenus, on est ravis de vous informer, de vous accompagner ce matin et on profite tous ensemble, c'est ça qui est bien ici. On va se marrer d'ailleurs avec le meilleur d'Arnaud de Manche, ça sera dans quelques minutes, c'est tous les jours de Manche, votre rendez-vous humour sur RMC.
Mais d'abord, il est là, il arrive, Nicolas Poincaré.
RMC, la matinale week-end,
le portrait de Poincaré.
Chaque samedi, on vous brosse le portrait de l'homme ou de la femme du week-end avec notre cher Nicolas Poincaré. On connaît la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet. Hein, vous l'avez entendu dans votre journal de 7h il y a un instant. Autour de la FNSEA, délire son patron.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour Marguerite.
Bonjour.
C'est Arnaud Rousseau, ce matin, le futur président de la FNSEA, le premier syndicat agricole.
La FNSEA qui élira son président à l'issue du congrès qui s'est ouvert cette semaine à Angers.
Et pour succéder à Christiane Lambert, il n'y a qu'un seul candidat, ce sera donc lui. Statutairement, le président du syndicat doit obligatoirement être un agriculteur. Arnaud Rousseau en est un, mais on a un peu de mal à le qualifier de paysan, parce que c'est plutôt un grand patron qui va désormais représenter les agriculteurs français. Il exploite 700 hectares de terre en Seine-et-Marne, dans un village dont il est le maire, dont son père était le maire, dont son arrière-grand-père était le maire. 700 hectares, c'est exactement 10 fois la taille moyenne des exploitations françaises. Il dirige aussi, à titre personnel, 5 entreprises qui sont liées au secteur agricole, mais il est surtout l'empereur français des oléagineux, c'est-à-dire du colza, du tournesol ou du soja. Il est le président du syndicat de la filière et le patron d'un géant de l'économie agricole fondé par ce syndicat, le groupe Avril, qui emploie 7000 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. Le groupe possède 6 usines en France qui produisent notamment les huiles Le Sieur ou Puget. Mediapart a détaillé que le groupe Avril est implanté dans 19 pays et achète des terres dans le monde entier. Bref, c'est un des boss de l'agroalimentaire qui va devenir le patron de la FNSEA. Et ce n'est pas la première fois. Xavier Bollin a dirigé ce syndicat jusqu'à sa mort brutale d'une crise cardiaque en 2017. Il occupait exactement les mêmes fonctions qu'Arnaud Rousseau. Il était président du syndicat des oléagineux, président du groupe Avril, fonction dont Arnaud Rousseau avait hérité à sa mort. Restait donc la présidence du syndicat agricole. Christiane Lambert, plus modeste éleveuse de porc, aura donc assuré une sorte d'intérim entre ces deux grands patrons.
Et logiquement, les positions qu'Arnaud Rousseau défend sont plutôt celles des gros producteurs.
Oui, parmi ces combats, il y a la lutte contre l'interdiction des pesticides, il y a le développement de nouvelles formes d'OGM. Il est également très favorable à la construction des bassines, ces grandes réserves d'eau dont on parle tant en ce moment. Autant dire qu'Arnaud Rousseau ne sera pas le meilleur copain des écolos. Il n'est pas issu d'un lycée agricole, mais d'une grande école de commerce. Il a donc un parcours d'industriel, mais avec un événement qui a bouleversé sa vie. il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il a fait une chute de 9 mètres dans un de ses silos à grains. Il a réussi à s'en sortir seul avec la force de ses bras. Il avait les deux jambes brisées. Il aurait pu y rester. Par la suite, il s'est mis à la randonnée. Il a marché 1500 km jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il paraît que ça vous change un homme.
Une résurrection, Nicolas Poincaré. Merci beaucoup. Le portrait à retrouver en podcast sur l'appli RMC, leportrait.car. Tous les jours sur RMC, dans Apolline Matin et dans la matinale week-end. 7h23, c'est l'heure de se détendre, Marguerite.
Allez, on va bien se marrer.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
Lui aussi, il est là tous les jours. Le meilleur d'Arnaud de manche, le samedi, le dimanche. Très penché, contraception ce matin.
Les macronistes se sont félicités de la distribution gratuite de préservatifs en pharmacie. Bah, on se félicite de ce qu'on peut. Le pays est à feu et à sang. Alors les macronistes, ils font les fonds de tiroir pour trouver des motifs de satisfaction populaire. Et pour le coup, je pense qu'Emmanuel Macron est très sincère sur l'importance de la gratuité des préservatifs, parce que plus les jeunes en mettent, moins il fabrique de nouveaux manifestants, et c'est très bien pour lui. Bientôt, Emmanuel Macron va rendre gratuit tout ce qui évite de faire des enfants, la pilule contraceptive, les womanizers, les posters de Camilla Parker Bowles à mettre au-dessus de son lit, comme ça l'excitation retombe tout de suite. Par contre, il va surtaxer le gingembre, le Viagra, il va passer Charles Matin en crypté. Et donc, vous avez vu, il y a un petit bijou de communication en plus, car les jeunes avec Macron ont tweeté « Faites l'amour, pas la grève ». Alors déjà, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, la moyenne d'âge des jeunes avec Macron, c'est quand même 83 ans. Hein, c'est les plus jeunes des électeurs macronistes. Comment on fait l'amour quand on est jeune macroniste à 83 ans? Eh bien, on se scotche un crayon HB tout le long de l'appareil génital pour que ça tienne droit. Blague à part. C'est une plaisanterie. On est le matin pour déconner. Blague à part. Comment ça fait l'amour, un macroniste de 25 ans?
Oh, mais je ne veux pas savoir!
Salut, jeune demoiselle. Dis-moi, je te voyais et je me disais, on pourrait faire un brainstorming sensuel en B2B. On définit le mindset en réunion et ensuite, je te soulève comme j'ai soulevé 200K pour ma start-up. T'as vu comme le gouvernement a défoncé l'hôpital public? Eh bien, je peux faire pareil avec toi. Je vais te faire un 69-3, mon ami. Et tu vas tout encaisser comme un député de la majorité. Oh oui, chérie. Je vais te faire crier comme l'opposition quand on fait passer un projet de loi. Regarde, j'ai amené un petit jouet vibrant à bourron. Ah merde, c'est pas mon sextoy, c'est Eric Ciotti qui s'énerve. Je suis trompé. Bon allez, ravi de vous avoir donné du plaisir ce matin. Et à demain.
Arnaud Demange dans le lit des macronistes.
Ça va aller le détour.
Retrouver en podcast, bien sûr, sur l'appli RMC.
Allez, dans un instant, à 7h30, un tout nouveau journal sur RMC avec la France qui a subi les rafales de la tempête Mathis. Deux hommes tués après des chutes d'arbres dans le Grand Est.
Et puis juste après la colère des pêcheurs, notre invité, le président du comité des pêches des Hauts-de-France, Olivier Leprêtre, à 7h40. À tout de suite.
C'est l'heure d'un tout nouveau journal avec vous, Stéphanie Roch, bonjour.
Bonjour à tous. La tempête Mathis a balayé la France. Deux personnes ont trouvé la mort après avoir été percutées par un arbre. Changement de direction à la CGT. Sophie Binet prend la suite de Philippe Martinez. Et puis en foot, Marseille tenue en échec à domicile par Montpellier.
Un 1er avril, sans poisson. L'opération filière morte se poursuit chez les pêcheurs. On va en parler avec notre invité à 7h40.
Et quelques minutes plus tard, le coup de main console les solutions chez vous pour réduire votre facture d'eau. Le vent a soufflé très fort hier, Stéphanie.
Et le bilan humain de cette tempête Mathis est déjà très lourd. De jeunes hommes de 19 ans et d'une vingtaine d'années sont décédés hier, percutés par la chute d'un arbre. Les explications avec vous, Léna Marjac.
Oui, l'homme de 19 ans se trouvait à côté de son véhicule sur une aire de repos dans les Vosges quand un arbre est tombé sur lui. La deuxième victime, l'homme d'une vingtaine d'années, a été mortellement percuté par un arbre alors qu'il conduisait près de Mulhouse en Alsace. Sa passagère est hospitalisée dans un état grave. À Saint-Jean-de-Sauve, dans la Vienne, c'est une tornade qui a causé d'importants dégâts. En seulement quelques secondes, des toitures arrachées, des arbres déracinés, une école et un EHPAD touchés sans faire de victimes. Et du côté de Buzancé dans l'Indre, une poutre a traversé une salle de classe d'une école primaire pendant un cours. Le pire a heureusement été évité. Et dans le Nord, ce sont des rafales de vent jusqu'à 130 km/h. Le trafic des trains hier entre Lille et Douai a donc été perturbé. Mais ce matin, en tout cas, toutes les vigilances ont été levées.
Merci beaucoup pour ces précisions, Léna Marjac. Et puisque vous parlez parler des trains. Cette tempête qui a balayé plus largement l'ouest de l'Europe et dans le nord de la Suisse, deux trains ont déraillé hier après-midi, faisant une quinzaine de blessés.
À la CGT, changement de direction. Sophie Binet prend donc les rênes de l'organisation syndicale.
Sophie Binet, 41 ans, cadre dans l'éducation, un changement de ton. D'ailleurs, la nouvelle patronne du syndicat a déjà prévu de se rendre à Matignon mercredi prochain à la demande d'Elisabeth Borne, la première ministre qui en a profité pour saluer son élection.
Notez que c'est la première fois qu'il y a une femme à la tête de la CGT, donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour toutes les femmes. Et puis lui dire que je me réjouis qu'effectivement l'intersyndicale vienne à la rencontre que j'ai proposée. Chacun pourra aborder les sujets qu'il souhaite. Et voilà, pour notre part, on expliquera aussi notre position. Il ne peut pas faire de pause. Mais moi, je suis à l'écoute et chacun aura l'occasion d'exprimer ses positions lors de cette rencontre.
Elisabeth Borne ouvre donc la porte à la discussion, mais la chef du gouvernement a prévenu, elle refuse toujours de mettre en pause le texte. Politique toujours, Marlène Schiappa en couverture de Playboy. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire a prévu d'aborder les questions de féminisme et d'égalité dans le magazine de Charme, connu pour ses photos dénudées. Publication prévue le 8 avril prochain, Marlène Schiappa sera en tout cas la première femme politique à faire la une de Playboy depuis sa création en 73. Et puis, nouvelle polémique autour de la Brave M, la brigade de répression des actions violentes. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative. En cause, la présence de 4 policiers sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna hier soir. Ils étaient venus témoigner de leur quotidien. Problème, il n'appartiendrait pas à cette brigade de la police. La procureure de la République de Paris a été saisie.
7h33 sur RMC, vous allez peut-être faire vos courses aujourd'hui, ce samedi. Bien, les prix continuent de grimper.
Une inflation à 5,6% rien que pour le mois de mars. Ça ralentit légèrement sur un an, mais les prix flambent, notamment dans l'alimentaire. Les Français se tournent donc naturellement vers les hard discounters, ces enseignes à prix réduits. Reportage dans un magasin Aldi du 7e arrondissement de la capitale, Caroline Philippe.
C'était seulement 2 ou 3 produits il y a quelques mois.
Ça s'est un peu plus amplifié, c'est passé jambon, viande, toujours les fruits et légumes également.
L'inflation pousse Diane, fonctionnaire, à délaisser les enseignes traditionnelles.
Entre un Franprix et 6 sur un paquet de salades déjà emballées, on économise entre 1€ et 1,20€. C'est une baguette de pain parce que même le pain a augmenté. Le seul extra que je m'autorise, c'est acheter le pain en boulangerie.
Avec sa bonne pension de retraite, Alain pourrait se passer du hard discount, mais pourtant...
J'ai pas envie de dépenser plus que ça ne vaut. Ça ne me change pas mon train de vie. C'est plutôt une question de principe. C'est ridicule de payer plus cher quelque chose qui est de même qualité et moins cher.
Le hard discount s'est banalisé, nous explique Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution.
Il pourrait encore acheter ailleurs, sauf qu'en allant chez Aldi ou chez Lidl, par exemple, il se donne encore la possibilité de dépenser, de se faire des petits plaisirs dans d'autres enseignes qui, évidemment, seront plus chères.
Ces enseignes continuent de gagner des clients, 193 000 depuis le début de l'année pour Aldi, par exemple.
Et puis, pour vous donner un ordre d'idée, en un an, les prix de la viande surgelée ont augmenté de 31%, le lait et le sucre de près de 25%.
Les sports et d'abord de la Formule 1. Premier tour de roue des qualifications du Grand Prix d'Australie, c'est en ce moment.
Troisième course de la saison et déjà de l'enjeu. Bonjour Jean-Luc Roy.
Oui, bonjour Stéphanie.
Nous allons vivre ces qualifications avec vous. On sait le champion du monde Max Verstappen diminué par des problèmes de santé. Alors comment se déroulent ces qualifications et est-ce qu'il y a déjà des surprises ?
Oui, il y en a eu une énorme pendant la Q1 puisque son équipier Sergio Pérez est sorti de la piste. Il a donc été éliminé de ses qualifications. Il partira dernier. Ça a valu la sortie du drapeau rouge également, de sorte que la deuxième partie des qualifications, la Q2, vient à peine de s'élancer maintenant. On a perdu 5 pilotes. Outre Pérez, on a perdu Piastri, Tsu, Sargeant et Bottas. On est en Australie et le temps, pour le moment, est assez moyen. Il y a eu quelques ondées hier qui ont perturbé les essais libres.
Merci. Merci beaucoup Jean-Luc pour ces précisions. On en profite pour préciser que la course, elle, aura lieu demain à partir de 7h en espérant que les conditions climatiques, en tout cas, soient bien meilleures. Elle sera à vivre en direct sur RMC.
Le foot, c'est aussi à vivre sur RMC, d'ailleurs, avec Marseille qui cale à domicile.
Un match nul, un partout contre Montpellier. Marseille toujours deuxième au classement, mais qui voit le Racing Club de Lens le talonner juste derrière. Il y a de quoi être inquiet, Florent Germain.
Oui, l'OM ne gagne plus au Vélodrome. Mais cette fois, l'entraîneur marseillais Igor Tudor a sorti l'excuse des matchs internationaux pour expliquer cette nouvelle contre-performance.
On a payé cher cette trêve internationale, mentalement, physiquement.
Cela a eu un impact sur nos joueurs avec tous ces voyages. On savait que ce serait difficile.
Igor Tudor a pourtant décidé de laisser sur le terrain des internationaux comme Alexis Sanchez et Jordan Veretout, fatigués, c'est vrai, et méconnaissables. Dimitri Payet, lui, n'a joué qu'un quart d'heure, mais il brandit le même argument que son entraîneur.
Non, je ne prends pas ça comme une excuse, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et si je dis pas de bêtises, je pense que ça fait deux fois après les trêves internationales que nous on joue le vendredi. C'est un détail qui a compté ce soir.
Des propos qui d'ailleurs ont gentiment fait sourire les Montpelliérains comme le défenseur Christopher Julien.
C'est leur problème. Hein. On a des internationaux aussi qui sont partis. Pour moi, les excuses, c'est les perdants qui les trouvent.
Et l'OM pourrait perdre justement la deuxième place si Lens bat Rennes ce soir.
Oui, Lens justement qui se déplacera à Rennes dès 21h. Le match sera à suivre en direct sur RMC. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Auxerre reçoit 3. Suite et fin, demain de cette 29e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillera Lyon en clôture. Monaco recevra Strasbourg.
Et puis on termine avec un mot de rugby puisque la Coupe d'Europe est de retour.
Et La Rochelle espère bien conserver sa couronne européenne. Le tenant du titre ouvre le bal des 8e de finale à domicile face aux Anglais de Gloucester. L'entraîneur des Avants, Romain Carmignani, a confiance en ses joueurs.
Rien n'est impossible. Et ça, on aime bien le dire aux garçons. Et puis on a magasiné un capital confiance qui est plutôt bien. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose quand vous respectez l'adversaire. Vous respectez le jeu, vous êtes propre sur votre conquête et vos lancements, mais tout est plus facile.
La Rochelle, Gloucester, donc match à vivre en direct sur RMC à partir de 18h30.
Merci beaucoup Stéphanie, on vous retrouve évidemment jusqu'à 9h. Attention, j'entends là le bruit du coffre qui s'ouvre et les pièces qui tombent très clairement. C'est le signal et le retour du coffre, vous l'avez entendu, hein, vous avez maintenant 5 minutes pour envoyer coffre au 7-32-16. Pour vous inscrire, coffre au 7-32-16 et pour gagner...
À gagner jusqu'à 30 000 euros, les
amis. On augmente la somme.
Incroyable. 5 minutes pour vous inscrire dès maintenant. On vous le disait, ça pouvait tomber à n'importe quel moment. Ça vient de tomber, 5 minutes, coffre au 7-32-16. Et restez bien à l'écoute d'RMC tout au long de la journée et tout au long de la semaine qui s'ouvre. Parce que le coffre RMC, vous pouvez vous inscrire... Bah, dès que vous entendez ces petites alertes à n'importe quel moment sur l'antenne.
Ça peut surprendre, mais il faut être réactif.
Bonne chance à vous. Allez, 7h38, dans un instant. Ce n'est pas une blague.
Non, ce n'est pas une blague. Ce 1er avril sera sans poisson. C'est en tout cas la volonté des pêcheurs français à l'origine de l'opération Port Mort et Filière Morte dans une semaine.
Pêcheurs dont vous faites partie, Olivier Leprêtre, bonjour.
Bonjour.
Explication des raisons de votre colère. Ce matin sur RMC, on se retrouve dans deux petites minutes. À tout de suite.
La matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Vous écoutez RMC, on commence le week-end ensemble. Il est 7h42 très précisément.
L'invité du jour.
Votre invité ce matin, Mathieu, Olivier Leprêtre, président du comité des pêches des Hauts-de-France.
Bonjour Olivier Leprêtre.
Bonjour.
Sole, bar, homard, coquillage, crustacés, les poissons frais difficiles, voire impossibles à trouver sur certains étals ce matin, 1er avril. Ce n'est pas une blague, c'est la conséquence de l'opération Filière Morte que vous avez lancée depuis une semaine. Votre port, d'ailleurs Boulogne-sur-Mer, a été le premier à tout bloquer. Les bateaux à quai, les mareyeurs, certaines poissonneries sont aussi à l'arrêt depuis par solidarité. On a vu cette manifestation d'ampleur, un milieu de pêcheurs à Brest jeudi. Vous allez poursuivre ces actions tout au long du week-end?
Bah écoutez, là déjà il y a une chose qui est positive, c'est que le commissaire européen nous reçoit dimanche matin à 10h. Donc les gars restent toujours mobilisés au minimum jusque le rendez-vous à la Commission européenne pour savoir ce qui va se discuter et voir si il y a des volets qui sont un peu moins virulents dans le plan d'action de la Commission.
Pour qu'on comprenne bien, il y a plusieurs raisons à votre colère, les éoliennes en mer, la flambée du prix du carburant, la réduction des quotas de pêche avec le Brexit. Mais là, ce qui se joue à la Commission européenne, c'est quoi exactement, Olivier Leprêtre ?
Ben, c'est le plan d'action de la Commission. Qu'est-ce que c'est que le plan d'action de la Commission ? C'est tout simplement l'interdiction des arts traînants dans les aires marines protégées. Alors, les arts traînants, c'est les chalutiers, ceux qui pêchent du merlan, du maquereau, de l'encorné, de la sèche, et les dragues à coquilles Saint-Jacques, donc plus de coquilles Saint-Jacques, les filets. Et pour certaines zones, c'est l'interdiction de toute pêche, c'est-à-dire le casier et le filet. C'est-à-dire qu'il y aura plus de crabes, plus de homards.
Et tout ça est censé entrer en vigueur en 2024 dans les zones Natura 2000, entre 0 et 12 000 marins. Décision prise, dites-vous, sans aucune concertation avec vous. En fait, vous vous battez tout simplement pour pouvoir continuer de bosser.
Contrairement à beaucoup de monde où on se bat pour ne pas travailler, nous on se bat pour travailler, c'est comme ça tout le temps. En fait, c'est une couche sur une couche et encore une couche. Déjà, on a ce qu'on appelle un parc marin. On fait pas ce qu'on veut dedans. Il y a des outils de gestion et puis on fait attention à ce qu'on fait. Et puis de toute façon, on n'a pas le droit déjà. Donc là, on en remet une couche avec des aires marines protégées où on interdit la pêche. Alors, dans ce fameux plan d'action, il y a pas que ça. Il y a les dauphins aussi. Les protections pour les dauphins, chose qui est tout à fait normale, mais on travaille déjà dessus. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut.
Justement, concrètement, Olivier Leprêtre, pour prendre en compte la protection des espèces? On a vu des images extrêmement choquantes de dauphins, notamment échoués, abîmés sur certaines plages.
Bah écoutez, madame, ça arrive, malheureusement. C'est quand il y a une prolifération, comme ce qu'on constate depuis beaucoup d'années, il y en a de plus en plus. C'est un peu comme les sangliers à terre. Plus il y en a, plus les risques d'accident sont importants. Et malheureusement, en mer, c'est ce qui se passe.
Donc c'est inévitable.
Il y a déjà du matériel, il y a ce qu'on appelle des répulsifs installés sur les bateaux pour éloigner les dauphins. Et malheureusement, il y a des plus accidentelles, ça arrive.
Les images dont parlait Marguerite ont été relayées par l'association Sea Shepherd, notamment. Cette association, en opposition avec vous ou plutôt en dialogue avec vous? Est-ce que vous pourriez avancer ensemble, Olivier Leprêtre?
Je pense qu'il faut plutôt travailler ensemble plutôt qu'être en opposition. Malheureusement, il y a eu, dans la manifestation la semaine dernière, des altercations assez houleuses. Mais je pense que c'est pas la bonne solution. Il faut à tout prix travailler ensemble pour répondre à cette problématique. Mais une chose est certaine, on ne pourra pas les éviter à 100%.
Vous nous le disiez, la bonne nouvelle du jour, c'est que vous allez donc rencontrer demain dimanche le commissaire européen en charge de la biodiversité. Vous allez lui dire quoi?
Écoutez, sur le plan d'action, il faut qu'il revoie sa copie, tout simplement. Et un plan d'action qui sort de la tête des technocrates, c'est bien gentil, mais je pense qu'il faut prendre l'avis des pêcheurs et travailler en collaboration. Et c'est ça le problème de la commission. Et on le voit très régulièrement, on ne prend pas en compte l'avis des pêcheurs. Donc bien évidemment que systématiquement, on est en confrontation et on n'avance dans rien. Donc là, je pense qu'il faut qu'il revoie sa copie, tout simplement. Et les pêcheurs de Moliron, que s'il revoit sa copie, c'est tout, c'est clair.
Le retrait pur et simple du projet. D'ailleurs, le secrétaire d'État chargé à la mer, Hervé Berville, est favorable aussi à ce retrait. Il va sans doute demain, lui aussi, à Bruxelles, rencontrer ce même commissaire pour lui dire que la France y est opposée. Vous vous sentez soutenu par le gouvernement français?
Tout à fait. Le président Macron l'a bien dit haut et fort. Il n'est pas favorable pour ce plan d'action. Et il a tout à fait raison. Mais ce n'est même pas un problème national, c'est un problème européen. On a quand même 8 pays à façade maritime où il y a des pêcheurs et c'est devenu européen.
Emmanuel Macron, à qui vous avez écrit, lettre ouverte la semaine dernière, vous lui demandez d'être reçu à l'Élysée, vous avez eu une réponse?
À l'heure qu'il est, on n'a pas la réponse.
Olivier Leprêtre, vous êtes avec nous? Problème de liaison avec Olivier Leprêtre, président du comité des pêches des Hauts-de-France, êtes-vous là?
Allô?
Oui, Olivier Leprêtre.
Oui, j'ai été coupé.
Allez-y, dites-nous pour Emmanuel Macron.
J'ai été coupé, excusez-moi.
On vous écoute.
Oui.
Olivier Leprêtre, est-ce que...
Pour l'instant, on n'a toujours pas le...
Olivier Leprêtre, président du comité des pêches des Hauts-de-France. La liaison est trop difficile. Merci beaucoup. On a bien compris l'essentiel de vos revendications, de votre colère, du rendez-vous qui est pris donc demain à Bruxelles avec le commissaire européen. Et on suivra bien sûr ce dossier tout au long du week-end dans la matinale week-end d'RMC. Il est 7h48.
À suivre dans la matinale week-end.
Je vais vous faire économiser des litres d'eau et quelques dizaines d'euros.
Les solutions qui font du bien, c'est votre nouveau rendez-vous, le coup de main conso avec Marguerite, dans une minute.
C'est la matinale week-end.
8h-10, on est ensemble jusqu'à 9h. Encore un peu plus d'une heure en votre compagnie, c'est un réel plaisir de se réveiller le samedi, le dimanche avec vous sur RMC. Tiens Marguerite, dans deux minutes, musique avec Peggy Broche, Kezia Jones et Philippe Cohen.
Solal. Génie.
dans le bonus culture d'RMC. Mais d'abord, on va s'inviter dans votre salle de bain.
RMC, le coup de main conso.
Vous savez qu'il y a ce risque de sécheresse. Cet été, Emmanuel Macron annonçait jeudi un plan de sobriété sur l'eau. Il va falloir qu'on soit tous beaucoup plus efficace dans notre consommation. Justement, Marguerite, vous allez nous aider à faire baisser notre consommation, mais aussi notre facture du même coup.
Et on va commencer par deux chiffres. 150 litres d'eau, c'est ce qu'on consomme tous les jours. 500 euros, c'est le montant moyen d'une facture par foyer et par an. On va faire baisser tout ça en douceur, c'est promis. Vous êtes peut-être sous la douche là maintenant, en train de vous laver les dents. L'eau utilisée pour l'hygiène représente 40% de votre consommation. C'est là qu'il faut agir. Il y a le bon sens, évidemment, et il y a les équipements. J'ai nommé le mousseur. Ça ne fait pas de mousse, c'est juste une petite pièce métallique qui se visse très simplement sur les robinets, les pommeaux de douche pour réguler le débit. La promesse divisée de 50% la consommation d'eau. Est-ce que ça marche ? Témoignage de Jérôme, habitant de Guénard en Bretagne.
J'ai 5 enfants qui prennent beaucoup de douches et parfois un peu trop longues à notre goût. Je suis passé auparavant à peu près 300 euros à une facture plutôt autour de 215-230 euros tous les 6 mois.
Et pour sa famille nombreuse, Jérôme a acheté 4 autres mousseurs car la mairie lui avait offert le premier. Il a pu en acheter car c'est pas très cher. Hein. J'ai regardé les prix, comptaient 2 euros. La pièce est raisonnable.
Oui, donc l'investissement est vite rentable. Les chasses d'eau maintenant, parce que là aussi il y a un problème.
Une chasse tirée égale 9 litres d'eau potable utilisée. Ça fait réfléchir, non ?
Effectivement, à chaque fois qu'on y va, 9 litres.
C'est assez délirant. Pour les motiver, il y a les toilettes sèches. Sinon, plus simple, la chasse d'eau à double touche pour adapter le volume d'eau et réduire au moins de moitié ma facture.
Il y a toutes ces solutions qui existent depuis déjà de nombreuses années, mais le problème, c'est que c'est toujours et encore de l'eau potable dans les toilettes. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ?
Oui, on a des solutions. Les récupérateurs d'eau de pluie, utiles aussi pour arroser votre jardin, nettoyer votre voiture ou faire tourner le lave-linge. À Fouleyronnes, commune du sud-ouest de 100 000 habitants, le maire a choisi cette solution.
En termes d'économie sur votre facture d'eau potable, on est aux alentours de 20 à 25%.
Avantageux, problème, l'installation coûte cher, minimum 100 euros. Bruno Dubo a eu la bonne idée pour réduire le prix d'achat, écoutez.
C'est d'aller démarcher des entreprises spécialisées dans les équipements d'eau et d'obtenir des conditions avantageuses pour pouvoir s'équiper à moindre coût. On espère 40% d'économie.
L'achat groupé, vous pouvez souffler d'ailleurs l'idée à votre mère. Par contre, attention, il y a quelques contraintes. Interdiction d'utiliser l'eau de pluie pour l'alimentation, ce n'est pas de l'eau propre. Obligation aussi de vérifier que le toit d'où ruisselle l'eau de pluie ne contient ni d'amiante ni de plomb.
Un dernier conseil, Marguerite, colmater les fuites.
C'est pas moi qui le dis, c'est le président. Emmanuel Macron souhaite généraliser les compteurs intelligents qui alertent en cas de surconsommation. Un robinet qui fuite peut laisser couler jusqu'à 120 litres d'eau et votre facture passe dans le rouge. Ça vaut le coup de vérifier régulièrement le compteur et la tuyauterie. Voilà, tous mes bons conseils, des gestes simples, pas d'écologie punitive. Je vous promets, c'est très facile à mettre en place.
C'est l'état d'esprit du coup de main conso, votre nouveau rendez-vous pour défendre votre pouvoir d'achat sur RMC dans la matinale week-end avec Marguerite Dumont, 7h54.
Le bonus RMC.
Et c'est avec vous, Peggy Broche, avec les retrouvailles de deux génies absolus de la musique.
Eh oui, Kezia Jones et Philippe Quensola. Alors pour ceux qui se disent, Kezia Jones, qu'est-ce qu'il chantait encore ? C'était ça.
Oh que oui.
Vous vous souvenez ? Rhythm is Love, sorti en 1992, énorme tube du chanteur et guitariste nigérian. Et Philippe Quensola, le compositeur, fondateur de Gotan Project, mélange de tango argentin et de musique électronique avec ce tube planétaire sorti en 2001.
J'adore. Ça met tout de suite dans un bon mood là.
On est d'accord.
Ça remonte loin, mais ça fait du bien.
Est-ce que vous vous souvenez dans quel film ça a été choisi pour une danse? Deux célèbres acteurs. Film sorti en 2004.
C'est vous avez des indices, avec Chenet, non?
Jennifer Lopez et Richard Gere.
Rien à voir.
Oh non. Ouais, bah oui, c'est un film romantique, Mathieu, ça vous parle
pas. Pretty Woman.
Shall We Dance. Non, Pretty Woman.
On est nul.
Shall We Dance. Si vous aimez les films romantiques, regardez avec la magnifique Gillo et le beau Richard Gere. Donc, c'est Philippe Quensola pour info qui a découvert Kezia Jones. À l'époque, il jouait dans le métro, dans les rues de Paris, à son arrivée de Londres, il y a plus de 30 ans. Et les deux amis se retrouvent aujourd'hui pour une première collaboration avec ce qu'on appelle un EP. C'est un mini-album, seulement 4 titres, Class of 89, dont est extrait ce morceau que j'adore, c'est très groovy, écoutez. Give Thanks and Praises, Class of 89. C'est le nom de cette EP qui est désormais disponible en précommande sur diggersfactory.com. Ça, c'est pour tous les fans de vinyle. C'est une plateforme où on peut commander les vinyles. Et puis, si vous êtes fan de Kezia Jones, il est en tournée en France. Première date, le 16 juin, à la Ferté-sous-Jouarre en Ile-de-France pour le festival Ferté Jazz. Il sera également à Jazz à Vienne le 29 juin. Le 8 juillet pour Montpellier Blues Festival et de nombreuses autres dates. N'hésitez pas, réservez vos places.
Peggy Broche, le bonus RMC pour vous réveiller en douceur.
J'ai envie de laisser la musique.
Et en musique, on peut. Et si on laissait la musique? Mais laissons un petit peu cette musique. Early in the morning,
give thanks, yeah. I get up early. Il est 7h56 sur RMC. Dans 3 minutes, il sera 8h.
On se retrouve, à tout de suite.
RMC, la matinale week-end.